Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous poursuivons la lecture du livre « D'un jardin à l'autre » de Frédéric Baudin. Et nous nous retrouvons dans le livre « Trois jours après ». Je reprends la lecture. Nous sommes dans le jardin de la tombe où Jésus a été mis après sa mort sur la croix. À l'aube du troisième jour, les gardes sont toujours sur place. Les femmes se sont levées de bon matin pour tenir leur promesse. Elles se rendent au jardin de la tombe pour achever les soins mortuaires. Elles ont les bras chargés d'aromates qu'elles viennent d'acheter sur les marchés. Soudain, la terre tremble de nouveau. Les gardes sont pétrifiés. Un ange apparaît aux femmes et leur déclare que Jésus est vivant. Comme souvent pour ces récits évangéliques de la Passion du Christ, les versions diffèrent. D'aucuns veulent soulever les contradictions apparentes de ces témoignages. Ceux-là même qui s'efforcent de nier que la notion de sacrifice puisse être associée à la mort de Jésus sont les plus zélés promoteurs de ces déconstructions très raisonnables qu'ils s'empressent de valider objectivement auprès des spécialistes les plus autorisés à leurs yeux. Chacun prend alors sa paire de ciseaux pour découper le texte et l'amputer, comme autrefois Ernest Renan, de tout passage qu'il juge légendaire, superflu et surtout irrationnel. Manier avec prudence la critique textuelle ou littéraire peut se montrer utile. Il n'est pas interdit d'exercer notre sagacité pour bien comprendre un texte en comparant, par exemple, les divers manuscrits qui nous sont parvenus, en les confrontant à d'autres témoignages, en débusquant les erreurs éventuelles des valeureux copistes qui nous ont transmis ce précieux patrimoine. La critique a toujours ses limites. Les divers auteurs des évangiles indiquent simplement par leurs détails respectifs des angles de vue différents. Mais il s'agit bien d'un même récit concordant. Il faut en suivre avec perspicacité le fil conducteur qui mène au grand jour de la révélation pour ne pas risquer de se perdre dans les méandres du labyrinthe herméneutique. En accord avec de nombreux et éminents exégètes dont l'autorité ne manque pas de solides appuis à travers les siècles comme de nos jours, nous choisissons de prendre tout ensemble et les récits animés des témoins oculaires rapportés par les évangélistes et les références explicites sous la plume des apôtres au sacrifice consenti par le Messie pour racheter les hommes et les femmes de ce monde en se chargeant de leurs fautes devant Dieu. Car sans cet arbre touffu aux branches élancées vers le ciel, il n'est pas de jardin qui puisse abriter nos souffrances et nos joies, nos morts et nos amours. Les femmes se rendent donc au tombeau à l'aurore. Selon Jean, Marie de Magdala arrive la première, mais elle ne voit que la lourde pierre rouler sur le côté et s'en retourne aussitôt avertir les apôtres. Pierre et Jean s'empressent alors de courir au jardin, vérifier cette information qu'ils ont peine à croire. De leur côté, les gardes, d'abord muets de peur sous le coup du tremblement de terre, s'en vont rendre compte à leur chef et aux responsables juifs qui finissent par acheter leur silence. Les autres évangélistes précisent que parmi les femmes parvenues à la tombe se trouvent Salomé, Jeanne et une autre Marie, mère de Jacques. Tous s'accordent pour établir que la révélation s'opère alors progressivement. C'est un tel choc pour les témoins qu'ils en perdent leurs repères habituels. Passé la première surprise, un ange, selon les uns, deux selon les autres, annonce à l'une ou plusieurs femmes ensemble que Jésus n'est plus dans la tombe, qu'il est revenu à la vie et qu'il demande à ses disciples de se rendre en Galilée pour le rencontrer. Leur salutation rassurante est habituelle. N'ayez pas peur. C'est ainsi que les anges, dans tous les textes inspirés, s'adressent aux hommes et aux femmes auxquels ils apparaissent, si rarement toutefois, dans le cours des longs siècles de l'histoire biblique. Le récit de Jean retient cependant notre attention, car il complète les autres témoignages sur un point que nous jugeons ici capital. Marie de Magdala, rapporte Jean, est revenue sur les lieux, tandis que Pierre et Jean, qui sont venus vérifier son information, s'en retournent chez eux. Ils sont entrés dans la tombe. Ils ont vu les bandes de lin posées à terre et le linceul sur la pierre, plat et vide, comme si le corps qui l'enveloppait l'avait soudainement traversé. Jean a compris tout de suite. Sa foi n'a pas vacillé. Elle s'est raffermie en un instant. Il est sûr que la promesse de Jésus s'est réalisée. Bien qu'il soit entré le premier dans le tombeau, Pierre s'est laissé plus lentement pénétrer par cette nouvelle étonnante, mais il a fini par admettre à son tour que Jésus est bien revenu à la vie. Les deux disciples décident de repartir. Ils vont prévenir leurs compagnons. Marie de Magdala semble demeurer seule en dehors de la tombe. Elle pleure. Sans doute n'a-t-elle pas encore osé entrer dans le caveau sombre, intriguée peut-être par le manège des disciples qui sont repartis en courant, apparemment sans lui dire un mot de leur conviction. Elle s'enhardit et se penche pour jeter un regard. Elle entre. Marie voit alors deux anges assis sur la pierre où reposait Jésus. Elle ne semble pas s'émouvoir. Sans doute les confond-elle avec deux gardes. Elle continue de pleurer et ne voit pas bien ses interlocuteurs. Elle s'étonne cependant de les entendre lui poser cette question avec une attention touchante. « Pourquoi pleures-tu ? » Marie répond qu'elle se désole de voir qu'on a enlevé le corps de son maître. Puis elle se retourne comme si ce bref et banal entretien lui suffisait pour comprendre que cette fois, tout est bien fini. Elle n'a plus qu'à quitter les lieux. Mais elle distingue alors en contre-jour un troisième homme à l'entrée. Il lui adresse la même question. « Pourquoi pleures-tu ? » Il reprend comme s'il n'avait pas entendu sa réponse quelques instants auparavant. « Qui cherches-tu ? » Selon Jean, Marie confond cet homme avec un jardinier. Jean chapitre 20, verset 15. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui s'adresse à Marie en cet instant, mais elle ne le reconnaît pas. Elle le soupçonne au contraire d'être l'auteur de cet enlèvement macabre. Elle s'enlise dans son interprétation erronée. Qu'il cesse donc de se moquer de ses pleurs et lui indique plutôt où il a caché ce précieux cadavre qu'elle recherche. D'un mot, Jésus dissipe alors tous ses soupçons. Il l'appelle par son prénom. « Marie !» Le jardinier du cimetière ne la connaît pas. Seul le divin jardinier à coup sûr peut la désigner ainsi par son prénom. En un instant, elle a compris. Elle a reconnu son rabbi, son maître. Elle court à son tour annoncer aux disciples et à ses compagnes l'heureuse nouvelle. Les femmes qui l'ont rejointe au tombeau ont vérifié l'information. Certaines ont vu les anges. Mais les solides galiléens, disciples désabusés du maître crucifié, ne peuvent les croire. L'après-midi même, Jésus confirme cette nouvelle qui dépasse la raison. Il se montre d'abord à Pierre, puis à un couple cheminant vers Emmaüs, un village voisin de Jérusalem, et enfin le soir à tous ses disciples, à l'exception de Thomas, qui est absent. Lorsque ses amis lui font part de cet événement extraordinaire, Thomas refuse d'ajouter foi à leurs paroles insensées. Il ne croira que lorsqu'il aura vu Jésus de ses yeux et qu'il l'aura touché de ses mains. Son incrédulité l'obligera à patienter une semaine entière avant que Jésus ne l'autorise à effleurer la cicatrice qu'il conserve sur la poitrine après le coup de lance reçu le jour de sa crucifixion. Jésus se dévoilera encore à ses disciples en Galilée, puis à plusieurs centaines de personnes à Jérusalem pendant les 40 jours qui précéderont son ascension et son retour vers le Père. Pour eux tous, le doute n'est plus permis. D'autres ne le verront jamais après sa mort, mais ils croiront pourtant en sa résurrection par grâce et par tendre révélation du Seigneur. La promesse de Jésus est une béatitude adressée à tous les Thomas du monde. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. Jean chapitre 20, verset 29. De ces récits de la résurrection, nous retenons en particulier qu'il se déroule dans un jardin où Jésus lui-même est confondu par Marie de Magdala avec le jardinier du cimetière. Certes, on ne peut pousser trop loin le sens de ce dernier symbole appliqué à une réalité aussi évidente. Dans ce lieu, Marie ne pouvait voir a priori que des gardes romains ou le jardinier. L'image ne paraît cependant pas fortuite. Jésus partage avec son Père les attributs divins. Dieu est le divin vigneron, le maître de la moisson, le Seigneur à qui l'on offre des prémices des récoltes. Jésus a appelé ses disciples à porter un fruit durable, à montrer en eux la présence de son Saint-Esprit, afin que le monde se tourne vers le Père pour recevoir la vie. Il jardine avec amour la forêt des hommes et des femmes qui placent en lui leur foi. Mieux, il est pour tous l'arbre de vie, la sève qui nourrit les branches greffées ou taillées par son Père. Il veille à la fécondation des fleurs et à la formation des fruits, puis à leur développement jusqu'à leur pleine maturité. Il n'est pas étonnant que les prophètes comme Ésaïe recourent à la métaphore de l'arbre coupé et d'un rejeton qui repousse pour désigner le Messie souffrant, mis à mort et de nouveau porté à la vie pour la transmettre à tous ceux qui croient en lui. Il devient alors une bannière pour tous les peuples qu'il rallie sous son ombrage bienfaisant. Ésaïe 11, Ésaïe 53 ou encore Jérémie 23, 33, Zacharie 6, versets 12 à 13. La résurrection est essentielle à la foi. Si le Messie n'est pas revenu de la mort à la vie, notre foi est vide. Nous n'avons rien de particulier à annoncer au monde. Nous serions même coupables de mensonges pour avoir prétendu que Jésus est ressuscité, affirme l'apôtre Paul avec une grande lucidité. Le retour corporel de Jésus à la vie annonce déjà notre propre résurrection dans des corps régénérés, incorruptibles. Le signal est donné. Jésus a vaincu la mort. 1 Corinthiens 15. Crucifié, mis à mort comme un malfaiteur, pendu à l'arbre maudit sur l'ordre de chef romain, avec l'assentiment de certains responsables juifs qui eût pu croire en ce Messie vaincu par les peuples ligués contre lui, par la mort qui atteint tout être humain, conformément à la parole prononcée par Dieu dans le jardin d'Éden. Le serpent a mordu le talon du Fils de Dieu, né d'une jeune femme vierge, choisie entre les femmes de toutes les générations. Mais, par un renversement que Dieu seul peut opérer, cette victoire passagère du Satan sur le prince de la paix signe aussi sa défaite définitive. Par sa mort, Jésus ouvre la porte de la vie. Par son sacrifice, il annule les accusations subtiles du serpent et réprime les menaces du lion enragé. Il couvre les fautes de tous ceux qui se tournent vers lui et le reconnaissent comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la victoire du mal et de la mort, il montre son amour et donne la vie. Jésus est comme maudit à notre place sur cet arbre du jardin de Golgotha. Il subit les foudres du jugement dans le jardin de la tombe. Il descend même au jardin des enfers pour nous obtenir une entière bénédiction par sa résurrection dans le jardin de la vie. Selon l'auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus a traversé le temple du ciel pour entrer lui-même dans le Saint des Saints en présence du Père afin de plaider notre cause en notre faveur. Comme un signe tangible de cette réalité invisible, le voile qui séparait les deux pièces du temple s'est déchiré lors du premier tremblement de terre, au moment même où Jésus expirait, précisent Matthieu, Marc et Luc. Jean seul retient un détail qui a toute son importance. On n'a pas brisé les jambes de Jésus pour précipiter sa mort. Il voit dans cette anomalie un parallèle qui avait déjà son sens lors de la première Pâque en Égypte. On ne devait pas briser les os de l'agneau pascal, Exode 12, 46 ou Jean 19, 36. Jésus est tout ensemble. Reprend l'auteur de la lettre aux Hébreux, l'agneau du sacrifice offert une fois pour toutes et le prêtre qui a officié à jamais pour asperger le sang de l'Alliance dans le Saint des Saints, sur le coffre où Dieu se rend accessible et se montre propice, sous le regard des kéroubim. Il a accompli la loi de Moïse et s'est chargé de nos fautes. Il a pris la place des coupables. Il a expié notre péché. Il a couvert et nous a rachetés par sa vie offerte sur l'autel. Il a consenti librement à sa mort que le Père, en pleine communion avec l'Esprit éternel, a ordonné par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle, résume Saint Jean, Jean 3, 16 ou Romains 3, 25. L'apôtre Paul enseigne que le Messie d'Israël nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Éphésiens 5, verset 2. Jésus est la lumière du monde, le chandelier d'or battu qui éclaire le lieu saint. Il est aussi l'autel sur lequel on offre le précieux parfum, la louange et la reconnaissance à Dieu. Jésus est le pain vivant qui nourrit son peuple. Quiconque mange son corps et boit son sang, le pain et le vin de la communion, pourra jouir de sa présence spirituelle en tout temps et commencera à connaître ainsi la bienveillance du Dieu unique, l'amour incommensurable d'un Père. Jésus est au cœur de toutes les fêtes qu'il anime pour partager d'abondantes récoltes avec les siens. L'arbre de vie peut à présent se développer. L'olivier du jardinier céleste étend ses rameaux jusqu'au ciel. Naturel ou greffé, ses branches sont chargées de fleurs parfumées et bientôt d'olives noires et belles, prêtes à libérer leur huile précieuse, à nourrir les affamés et à guérir les malades. Le peuple de Dieu réconcilié avec le Créateur qui a renouvelé pour toujours son alliance avec lui, peut enfin devenir un jardin et remplir le monde de ses fruits.
Listen, well, God called Moses on the mountain top. Let my people go. He put his coming out of Moses' mind. Let my people go. His tempest loves as Moses' heart. Let my people go. He said, Moses, don't leave my lambs behind. Let my people go. Yes, the Lord said, go down,
go down.
Moses.
Way
down,
down
in Egypt, the land. Tell all.
Moses,
way down in Egypt land,
tell Pharaoh,
let my people go. I said, let my people go. Yes, I said, let my people go. Yes, let my people go.
Chapitre 15. Le jardin de l'Olivier. Heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Psaume 1, les versets 1 à 3. Le fruit du juste est un arbre de vie. Proverbe chapitre 11, verset 30. Jésus et ses disciples avaient coutume de se rendre au mont des Oliviers, près de Jérusalem, lorsqu'ils éprouvaient le besoin de se retirer un peu à l'écart, d'échapper à la foule et aux tensions avec les maîtres religieux, pharisiens ou sadducéens. Jésus enseignait alors ses compagnons, il leur parlait souvent du règne de Dieu à venir. 40 jours après sa résurrection, c'est du sommet de cette colline couverte d'oliviers qu'ils se dérobent à leur regard pour rejoindre le Père. Avant de les quitter, il leur demande de rester à Jérusalem afin qu'ils reçoivent ce que Dieu leur a promis, sa présence par son Esprit Saint. Jésus leur laisse un ultime ordre de mission. Vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous, et vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Actes chapitre 1, verset 8. Ce don spirituel est accordé à tous ceux qui reconnaissent en Jésus le Messie, le Fils de Dieu et le Seigneur. Nul ne peut en jouir pour lui-même. L'amour est toujours à partager. La vie a donné. Les disciples de Jésus n'ont probablement pas imaginé les répercussions concrètes de ces paroles, ni l'ampleur du mouvement de foi qu'elles allaient déclencher. Pierre, Jacques, Jean et leurs compagnons étaient tous juifs. Les parents de Jésus, sa famille proche ou lointaine, étaient issus de la maison de David, l'un des premiers rois d'Israël. Beaucoup de Juifs avaient saisi que Jésus était bien le Messie, comme l'avaient annoncé les prophètes. Ils savaient que le Dieu auquel ils croyaient se révèle aussi aux non-Juifs qui placent leur confiance en lui. Le roi Salomon, fils de David, n'avait-il pas dédié le temple de Jérusalem au Dieu unique en lui demandant d'exaucer quiconque, juif ou non, le prier en ce lieu où l'on peut obtenir le pardon de ses fautes? 1 Rois chapitre 8, les versets 41 et 43, ou Ésaïe 56, les versets 6 et 7. La promesse adressée à Abraham devait aussi s'accomplir. La révélation particulière qu'il avait reçue allait s'étendre un jour au monde entier. L'arbre de foi qu'il avait semé pourrait ainsi s'épanouir et abriter tous les peuples. Dans le temple de Jérusalem, un vieillard nommé Siméon, que l'on reconnaissait comme prophète, a tenu Jésus quelques instants dans ses bras, tandis que ses parents apportaient l'offrande rituelle pour la naissance de leur fils. Siméon a confirmé ce que Marie, la mère de Jésus, avait exprimé dans un admirable cantique lors de sa visite à Élisabeth. « Maintenant, Seigneur, ta promesse s'est réalisée, car j'ai vu de mes propres yeux ton salut que tu as préparé devant tous les hommes. C'est la lumière qui te fera connaître aux nations du monde et donnera de la gloire à Israël, ton peuple. » Luc, chapitre 2, versets 29 à 32. 33 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, la fête des semaines, Shavuot, où l'on célèbre les prémices de la moisson, des Juifs de tous les pays de la diaspora sont montés à Jérusalem pour apporter au temple leur offrande à Dieu, comme le prescrit la loi de Moïse. Vers 9h du matin, ils entendent soudain une explosion dans un quartier de la ville, comme si la terre tremblait et déclenchait une onde sonore parcourant la cité et résonnant entre les collines. Ils accourent à l'endroit d'où s'élève cette clameur formidable. Ils sont surpris de trouver là une assemblée d'une centaine de personnes qu'ils jugent un peu exaltées, louant Dieu dans diverses langues. Certains les croient ivres de si bon matin. Mais Pierre prend la parole et dissipe tout malentendu. Sa voix est claire, son discours plein d'assurance. Pour la première fois dans l'histoire, il leur annonce que Jésus est le Messie. Crucifié 7 semaines auparavant, Dieu l'a ressuscité le 3e jour après sa mort. Jésus est bien le Seigneur, vivant au siècle des siècles. Dieu accorde sa grâce à quiconque veut résolument se détourner du mal. Il est désormais possible, par la foi au Messie et Seigneur, mort et ressuscité, d'obtenir le pardon de ses fautes et de recevoir le don de l'Esprit-Saint. Un grand nombre de Juifs reçoivent le discours de Pierre avec joie. Ils s'en retournent avec une foi renouvelée au Dieu d'Israël dans les diverses contrées où ils résident. Ils partagent naturellement leurs convictions avec leurs proches, et c'est ainsi que l'Évangile, la bonne nouvelle du Messie Jésus, se répand dans les synagogues et en dehors, dans l'ensemble du bassin méditerranéen. À Jérusalem, certains sont prêts à embrasser ce mouvement messianique ou à le tolérer et le laisse évoluer. Après tout, suggère le grand rabbin Gamaliel, ce n'est pas la première fois qu'une telle communauté spirituelle surgit ainsi et rien ne laisse présager qu'elle va se développer. Actes chapitre 5, verset 33-41 et chapitre 6, verset 7. Mais dans l'ensemble, les autorités religieuses s'y opposent dès les premiers jours et font bientôt arrêter Pierre et Jacques, les principaux responsables de la nouvelle assemblée qu'ils jugent hétérodoxe. Comme son maître, Jacques subit peu après le châtiment suprême. L'un des ennemis les plus acharnés de cette communauté messianique naissante est un certain Saul de Tarse, disciple de Gamaliel et donc formé à l'école du grand rabbin Hillel, qui prône l'amour pour accomplir la loi. Saul est animé d'un zèle sincère dont la rigueur l'emporte cependant sur l'amour. Il finit par opérer une volte-face déroutante. Après avoir approuvé la condamnation des fidèles de Jésus, tandis qu'il s'apprête à en persécuter d'autres à Damas, Il est terrassé en chemin par Jésus lui-même, dont la lumière et la bienveillance l'aveuglent. Il ne voit plus pendant 3 jours et dans le même temps éclaire sa foi ardente. Convaincu à son tour que Jésus est bien le Messie promis à Israël et au monde, il s'en va rejoindre ceux qu'on commence à appeler les chrétiens, les disciples du Christ. Ce mot grec est la traduction de l'hébreu « Messie ». Dans l'Ancien Testament, il désigne l'homme choisi pour exercer la prêtrise, le ministère prophétique et, ou la royauté. On le consacrait alors en versant de l'huile sur sa tête en signe de bénédiction, tout en priant Dieu de lui accorder la sagesse pour bien remplir son office. Jésus est le Messie, le Christ par excellence. Lui seul cumule les 3 fonctions et les accomplit dans une complète fidélité. Ceux qui s'en réclament doivent suivre son exemple et montrer un amour sincère. C'est ainsi que l'on reconnaît les adeptes de cette foi nouvelle, tant parmi les Juifs que les non-Juifs. À Jérusalem, on remarque leur esprit communautaire, le partage sans calcul de leurs biens et leur communion spirituelle, leur assiduité au service du temple. Nul n'est insensible à cette démonstration de l'amour inspiré que le grec rend par un mot particulier, agapé. Le fougueux disciple de Jésus, devenu à son tour apôtre, le juif Paul de Tarse va donc reprendre le flambeau de Pierre et Jacques pour le porter en dehors de Jérusalem et de la Judée, au-delà de la Samarie et de la Syrie, déjà visitée par Philippe et Barnabas. Aidé par d'autres valeureux compagnons comme Silas, Timothée, Priscille et Aquila, l'apôtre Paul met toute son énergie, sa foi et ses connaissances théologiques au service du Seigneur, pour se rendre, sinon jusqu'aux extrémités de la terre, du moins jusqu'aux confins du bassin méditerranéen. Dans les pays qu'il traverse, Paul et ses compagnons adressent leur message en premier lieu dans les synagogues. Ils abordent également les prosélytes, les non-juifs qui ont adhéré à la foi au Dieu d'Israël et qui ont accepté, pour certains, d'être circoncis afin de manifester leur appartenance au peuple de l'Alliance mosaïque. Ils se tournent enfin vers les autres peuples. En quelques dizaines d'années seulement, d'Asie mineure à l'Italie, de la Grèce à l'Espagne, des foules, des assemblées, des maisonnées et des individus ont ainsi l'occasion d'entendre la bonne nouvelle du Messie juif, mort et ressuscité pour obtenir le pardon et la réconciliation de tous avec le Dieu unique d'Abraham. Rien ne les dispose particulièrement à recevoir cette foi. Les Juifs s'en méfient. Ils la jugent comme un scandale, un obstacle dressé sur leur voie religieuse. Si les non-juifs accueillent favorablement de nouvelles divinités dans leur panthéon gréco-romain ou animiste et païen, ce Dieu unique en 3 personnes et invisible leur semble étrange, peu efficace, voire menaçant pour la stabilité de l'Empire. Les philosophes se moquent de cette irruption de l'irrationnel et achoppent sur la résurrection du Christ hébreu une folie pour l'esprit humain. Beaucoup d'hommes et de femmes, cependant, les plus humbles en majorité, mais aussi des notables et des membres éminents des pouvoirs publics ou religieux, écoutent attentivement l'infatigable apôtre et ses collaborateurs. Certains franchissent le pas Ils ajoutent la foi aux paroles et aux promesses de Jésus. Ils reçoivent cet esprit qui donne la paix et les libère de la peur de la mort. Comme les Juifs, ils appellent Dieu Abba, c'est-à-dire Père. Ces chrétiens bravent les dangers et leurs adversaires pour annoncer à leur tour l'Évangile. Malgré l'opposition croissante des autorités, tant juives que grecques et romaines, nul ne peut contenir l'essor de cette ecclésia, l'assemblée messianique ou communauté chrétienne. Personne, toutefois, n'aurait pu prédire que ce peuple réuni en un seul corps n'allait cesser de croître et résister aux assauts du temps, tel un olivier planté dans le jardin du monde. Pour terminer la lecture aujourd'hui, le chapitre 15 nous amène dans un nouveau jardin, le jardin de l'Olivier. En introduction, deux textes bibliques tirés du psaume 1 et de Proverbe, chapitre 11, verset 3. Le fruit du juste est un arbre de vie. Il nous est aussi parlé du jour de Pentecôte avec l'explosion de vie de la venue du Saint-Esprit sur la foule des fidèles rassemblés tous en un même lieu. La suite nous sera donnée dans l'émission suivante « Je lis pour vous » en direct ou en podcast sur Radio Alliance Plus. N'hésitez pas à vous brancher sur radioallianceplus.fr et à bientôt, chers auditeurs.